Chers auditeurs, l'événement qui a marqué l'Église et l'Europe tout entière, peut-on dire, au XVIe siècle, c'est bien sûr la réforme protestante. Le diocèse de Bayonne n'y a pas échappé, mais il a été atteint de façon différente au Labourd et en Basse-Navarre en raison de l'appartenance politique différente de ces deux provinces. À Bayonne, les idées nouvelles ont sans doute été introduites par des marins ayant eu contact avec elles dans les ports qu'ils avaient fréquentés. Et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, les doctrines protestantes reçurent un bon accueil dans le milieu artisanal. C'est ainsi qu'en 1545, un menuisier nommé René Charretier, convaincu d'avoir adhéré à la religion nouvelle, fut arrêté et dut faire amende honorable devant la cathédrale dans la tenue propre à ce genre d'exercice. Il fut ensuite fouetté dans les carrefours de la ville et eut la langue percée. Un supplice, écrit le bon chanoine historien Veillé, qui se fit avec une grande édification du public. Par arrêt du Parlement de Bordeaux au 23 septembre 1546, il fut banni de la ville à perpétuité. Mais il bénéficia sans doute d'une réduction de peine, peut-être même d'une amnistie, car c'est lui qui exécuta le superbe retable de la cathédrale de Bayonne détruit, dit l'abbé du Barat, par le goût déplorable de Monseigneur de Beauvau. Comme on le voit, le corps de ville, c'est-à-dire la municipalité, veillait au respect scrupuleux de l'orthodoxie, au moins autant, sinon plus que le clergé, qui ne semble pas s'être préoccupé outre mesure de combattre l'hérésie. Seule l'attitude du maire de Bayonne, Antoine de Gramont, fut pour le moins ambiguë. Il est vrai que les Gramont étaient des partisans fidèles de la reine de Navarre, Jeanne d'Albret. On peut dire qu'à Bayonne, l'intérêt pour les idées nouvelles fut l'affaire d'individus isolés et non celle de groupes organisés. On ne trouve pas trace d'une présence protestante à l'intérieur du Labourd. De toute manière, le culte catholique ne fut jamais interrompu ni même troublé dans cette partie du diocèse. La procession de la Fête-Dieu en 1565 revêtit à Bayonne une solennité exceptionnelle en raison de la présence dans ses murs de la cour de France et de celle d'Espagne. La reine-mère Catherine de Médicis y avait donné rendez-vous à sa fille Élisabeth, la reine d'Espagne. Et le roi de France, Charles IX, s'y trouvait également. Et tout ce beau monde assista donc à la procession de la Fête-Dieu dans le plus grand apparat. À partir de 1574, avec la nomination de Jacques Maury à l'évêché de Bayonne, l'action des pouvoirs publics se fera plus répressive. Les émules des ligueurs parisiens trouveront un encouragement dans son attitude intransigeante. Le corps de ville lui-même devra tenir compte du tempérament soupçonneux de l'évêque, car il se vit accusé de froideur dans la lutte contre l'hérésie. Il est vrai que si le corps de ville faisait preuve de fermeté, il avait en même temps le souci de la justice et de la paix civile. La plupart des protestants bayonnais, disaient les magistrats communaux, étaient pauvres et femmes veuves et n'avaient jamais bougé, quel trouble qu'il y ait eu. Le sort de la Basse-Navarre fut autrement cruel. Cette province dépendait de la reine Jeanne d'Albret. Celle-ci avait beaucoup entendu dénigrer chez elle le pape pour son attitude à l'égard de ses grands-parents, qui avaient été excommuniés pour leur alliance avec le roi de France. Et à la cour de Nérac, elle avait également côtoyé des humanistes qui militait en faveur d'un sérieux dépoussiérage de l'Église catholique. Quand elle devint reine en 1555, elle penchait déjà vers la réforme. Et c'est le 25 décembre 1560 qu'elle fit profession dans la nouvelle religion. Devenue veuve, elle exigea immédiatement que la préférence fût donnée au prêche d'un ministre protestant. Pourtant, soucieuse d'assurer la liberté de conscience de ses sujets, elle proclama la liberté de culte le 2 février 1564. Mais en même temps, elle constituait une commission chargée de confisquer tous les biens d'Église. En 1566, un édit interdisant pratiquement le culte catholique mit le feu aux poudres et précipita la résistance des Navarrais. Le souvenir des luttes passées, celles qui eurent lieu entre Agramonté et Beaumonté au moment de la partition de la Navarre, orienta certainement le choix du camp de chacun. Le duc de Gramont, Jean de Belzunce, vicomte de Macaille et capitaine châtelain de Mauléon, le seigneur de Larrea d'Ispourg, capitaine châtelain de Saint-Jean-Pied-de-Port, prirent le parti de la reine comme ils l'avaient fait auparavant pour les souverains de Navarre. À la tête des opposants se trouvait Charles de Luxe avec les seigneurs de Domezin, d'Armendalitz et le vicomte d'Échoux, de Baïgorry. Le 24 mars 1568, ces derniers publièrent un manifeste des gentilshommes de la basse Navarre et du peuple qui ont pris les armes pour la défense de la religion et de leurs privilèges contre l'établissement de la religion prétendue réformée fait par la reine de Navarre, le seigneur de Gramont, son lieutenant général. La lutte fut féroce. Elle tourna à l'avantage de la reine quand intervint Montgomery en sa faveur. Pendant 4 ans, le pays fut mis à feu et à sang. Des villages comme Larsevaux furent anéantis. À peu près toutes les églises de la région furent brûlées. Les habitants de Cise, obligés d'assister aux prêches protestants, préférèrent se réfugier en masse vers Hochagavia. Les affrontements s'apaisèrent avec l'arrivée d'Henri IV au trône de France et sa politique de tolérance. Quand la guerre civile prit fin, il restait, à part les ruines, peu de choses de l'implantation de la religion réformée en Basse-Navarre. Les chefs protestants n'avaient guère persévéré au-delà de la conversion d'Henri IV. On ne trouvait pratiquement pas de groupe organisé ni de communauté animé par un pasteur, du moins sur le territoire de l'évêché de Bayonne. Il y en avait à Saint-Palais, au diocèse de Dax, et à Mauléon, au diocèse d'Oloron. Les Bas-Navarrais avaient choisi de rester fidèles à leurs traditions religieuses, à leurs fêtes carillonnées, aux processions et aux pèlerinages, ainsi qu'au culte de leurs morts. Il leur restait à reconstruire leurs églises et à réparer leurs cimetières. Rappelons en terminant que la reine Jeanne d'Albret n'avait pas compté que sur les armes pour promouvoir la religion réformée. Elle avait pensé que la parole de Dieu avait quelque chose à y voir. Elle fit donc traduire le Nouveau Testament en basque. Elle en chargea Jean de Leissaraga, qui était de Briscousse et très probablement, au départ au moins, curé de cette paroisse. Le synode protestant nommera 4 pasteurs d'origine basque pour réviser sa traduction. Le Testamento Beria fut imprimé à La Rochelle. Il n'en existe que très peu d'exemplaires, l'ouvrage qui sentait le soufre ayant été voué à la destruction quand le culte catholique fut rétabli. On peut le regretter. Les philologues et les amoureux de la littérature basque déplorent cette quasi-disparition car on peut trouver chez Leissaraga des renseignements intéressants sur l'évolution de la langue. Nous aborderons la prochaine fois l'histoire de notre diocèse au XVIIe siècle.